TimeFoot. TimeFoot. Résultats, news, agenda et info off de la plus grande compétition africaine. Tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de TimeFoot sur Beurre FM, votre émission quotidienne en ces temps de Coupe d'Afrique des Nations, fin de semaine, le premier tour terminé avec mes consultants aujourd'hui présents et présentes. J'ai un trou.
Dis-moi.
J'ai un trou. Alison est avec nous ce soir. Là, je t'ai vu, j'ai été ébloui, j'ai eu un gros trou. Alison, comment ça va?
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça va très bien,
et toi? Ouais, impeccable. Bah, écoute, ça va impeccable. Froidement, mais heureux d'être dans les studios. Vivien est avec nous ce soir, Vivien. Il a envie d'en découdre.
Toujours.
Comment ça va?
Ben ça va, bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices.
Ah, il prend bien son temps, toutes les auditrices.
Ah,
il a bien plié. Sans oublier Kamel qui est avec nous. Comment ça va, Kamel?
Ça va très bien, merci.
Ouais, impeccable.
Un bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs.
Ouais, c'est important.
C'est important.
De préciser.
Ceux qui font vivre la radio.
Ouais.
Ouais, sans eux, nous ne sommes rien, n'est-ce pas, Vivien?
Tout à fait.
Au sommaire de ce Time Foot, on parlera des huitièmes de finale. Voilà, nous avons le tableau complet, on y revient dans quelques instants. La désillusion, bien sûr, l'élimination de l'Algérie, éliminée au premier tour de cette édition de Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, le Barça, voilà, encore le Barça. C'est compliqué pour les Blaugrana, on y reviendra en fin d'émission. Et tout de suite, le JT.
Time Sport.
Oui, on démarre les infos du vendredi par la prolongation d'Hugo Lloris à Tottenham, initialement en fin de contrat en juin prochain. Le champion du monde français de 35 ans a finalement étendu son bail de 2 ans dans le club londonien. Du football anglais toujours, et Liverpool qui rejoint Chelsea en finale de la Carabao Cup. Après avoir battu Arsenal 2-0 hier soir, les hommes de Jürgen Klopp et Thomas Tuchel se retrouveront le 27 février prochain à Wembley. En transfert, Mallorca annonce l'arrivée de Sergio Rico dans son effectif. Le troisième gardien du Paris Saint-Germain s'engage avec le club de la Liga dans le cadre d'un prêt sans option d'achat. Et enfin en tennis, l'Open d'Australie, toujours au terme d'une lutte acharnée, Adrian Manarino a finalement vaincu Aslan Karatsev 7-6, 6-7, 7-5 et 6-4 ce vendredi à Melbourne. Le Français est en huitième de finale de l'Open d'Australie pour la première fois de sa carrière et défiera dimanche le grand Rafael Nadal. Voilà, c'est tout pour les infos du vendredi. On vous souhaite une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Allez, on est de retour. Grand combat de boxe ce week-end, Vivien, rapidement.
Faut pas louper entre Gane et Ngannou. C'est MMA poids lourd avec la ceinture en jeu.
Donc, de MMA, Vivien. Mais il a pas relevé, Vivien. C'est que c'était un test.
Non, il est pas assez attentif.
Il est pas attentif, Vivien.
Non, mais moi, je suis déjà dans la cage. Je suis comme Ngannou. Je préfère envoyer les coups plutôt que trop réfléchir.
Et un combat franco-français, c'est important de le préciser
très
aussi.
Très important de le préciser. En tout cas, on sera au rendez-vous. Allez, le premier sujet.
Time Sport. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
Il est là, il est en place, il est tout beau. Le tableau des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec Burkina Faso, Gabon, Nigeria, Tunisie, Sénégal, Cap-Vert, Mali, Guinée équatoriale, Guinée, Gambie, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Égypte et enfin Maroc, Malawi. Messieurs, dames, lorsqu'on voit le tableau, qu'est-ce qu'on se dit, Vivien?
Bah déjà, je regarde le parcours du pays hôte, le Cameroun. Je trouve qu'ils sont dans une sacrée bonne partie du tableau. Enfin, moi, je trouve que le Cameroun a tout pour aller en demi avec un match contre les Comores qui font un parcours exceptionnel. Mais
première participation.
Exactement. Ça devrait être assez abordable. Puis si ça passe, Guinée-Gambie. Donc, je vois un tableau très bien pour le pays hôte. Et puis. Après, on regarde forcément les pays qui nous ont fait les meilleures impressions dans cette première phase, c'est-à-dire le Nigeria, même le Maroc, le Mali. Et je trouve qu'en tout cas, on a tout pour retrouver, je sais pas, les pays les plus séduisants dans le dernier carré.
Ouais, le Cameroun, donc, qui recevra, vu que la Coupe d'Afrique a lieu au Cameroun à Yaoundé, donc le 24 janvier à 20h, et donc le vainqueur de ce match. Affrontera le vainqueur du huitième de finale entre la Guinée et la surprenante équipe de Gambie. Alison, les huitièmes.
Effectivement, Vivien, là, c'est bien résumé. Il y a deux vraiment parties distinctes. Il y a une partie un peu plus light pour le Cameroun aux côtés des Comores, de l'Égypte. Effectivement, en demi-finale, la grosse confrontation, ça sera éventuellement contre l'Égypte. Mais de l'autre côté, ça va un peu plus
Côte d'Ivoire-Égypte quand même. Hein.
Exactement.
Il va falloir que les Égyptiens.
Oui, mais il y en a un qui tombera. Mmh. Donc ça sera soit la Côte d'Ivoire, soit l'Égypte. Mmh. Effectivement. Et de l'autre côté, ça va un peu plus batailler. On croyait plus au Nigeria et là le Nigeria a fait une grosse partie pendant les poules. Je dirais pas qu'on a retrouvé le Nigeria d'antan, mais en tout cas on a une équipe solide défensivement, ils sont très costauds. Offensivement ça joue, c'est cohérent et on a le Maroc hein, qui est l'équipe qui s'est procuré le plus d'occasions. Toutefois même s'ils l'ont pas, ils les ont pas toutes converties, mais en tout cas c'est l'équipe qui a le plus tiré au but dans cette phase de poule. On a aussi le Mali, même si le Mali a pas fait grosse impression comme le Sénégal. En tout cas, on sait que ce sont des équipes qui vont être présentes pour à partir des huitièmes de finale. Donc voilà, la Tunisie aussi, même si je reste un peu chafouin hein, sur la Tunisie, on nous avait promis un peu mieux pour la Tunisie. Je trouve pas que ce soit une grosse équipe, mais elle est là et c'est quand même correct. Donc voilà, ça promet des beaux huitièmes de finale en tout cas.
Ah, la Tunisie qui affrontera le Nigeria à Garoua, ça sera le 23 janvier à 20h. Kamel ?
Oui, moi c'est le Nigeria qui m'a le plus impressionné.
Ouais.
Sincèrement, c'est le Nigeria qui m'a le plus impressionné. Donc après c'est vrai que ces huitièmes de finale, pour moi ils sont équilibrés. Tout est équilibré parce que comme on a dit, premier tour il y a eu quand même des surprises. Hein, quand on voit le Comores qui sont qualifiés, donc voilà, donc tout est équilibré. Et après je pense que on verra ça en quart de finale, mais je veux dire que même le Cameroun n'est pas sûr de passer, attention, hein, parce que tout est possible, hein, je veux dire tu mets un système en place, tu mets tout le monde derrière et tu vas par contre, etc. Genre comme les équipes africaines ont forcément l'habitude de jouer, mais je veux dire en plus là c'est la Coupe d'Afrique des gardiens de but, hein,
ça brille pas mal, hein, chez
les gardiens de but africains ils brillent pas mal, donc voilà, donc je pense que non, ça va être équilibré, après on verra.
Justement, vous avez évoqué les nouveaux favoris ou outsiders sérieux, est-ce que peut avoir des surprises, je parle de sélections comme le Burkina Faso, comme le Gabon qui malgré ses stars sont à ce stade là, ou la Gambie, la Guinée équatoriale qui est mise en difficulté.
Je pense que c'est le Gabon, il s'est retiré deux ampoules du pied, c'est-à-dire Lemina et Aubameyang, hein, parce que c'était des soi-disant bons joueurs, mais après tout ce qu'ils ont fait, ils ont plus pollué l'équipe que possible. Donc je veux dire que le Gabon, oui, il a une chance, mais je veux dire que tout le monde a sa chance parce que c'est sur un match et voilà. Et après il faut jouer le tout pour le tout. Mais je veux dire que pour moi la Coupe d'Afrique, il y a pas de favori en vérité. C'est assez disparate, etc. Donc voilà. Donc regardez, on en parlait tout à l'heure. Regardez l'Algérie. Donc je veux dire, il y a pas de regardez le Comore première et sincèrement le Comore ils m'ont impressionné, hein. C'est que des joueurs de National 3, etc., qui jouent à
12 joueurs,
12 joueurs de National 3
qui évoluent en National 3, N2 N3,
ouais, donc et franchement physiquement ils ont été au top, et franchement ils se sont créés des occasions, etc. Non, franchement je sais pas si c'est la Coupe d'Afrique qui les a surélevés, mais sincèrement le Comore m'ont fait une bonne impression. Bon, après est-ce que la répétition des matchs va pas les trucs, mais je veux dire franchement
Que la surprise, ça sera le Nigeria. On en parlait tout à l'heure. C'est pas une équipe qu'on attend. C'est une équipe qui a, excusez-moi du thème, qui a perdu de sa superbe. C'est pas une équipe qu'on attendait dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais comme je partage l'avis de Kamel, moi, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné sur à chaque ligne et par le niveau de jeu, par l'intensité physique, par aussi tactiquement, c'est bien en place, ça coulisse bien, ça compense bien. Donc je pense vraiment que si surprise il doit y avoir, ça sera l'équipe du Nigeria.
Alors, est-ce que le Nigeria, c'est vrai qu'on en a très peu parlé en début de compétition, ils ont tout de suite marqué de leur empreinte sur cette rencontre contre l'Égypte. Le Nigeria, surprise, mais pas tout à fait, Vivien.
Bah, un petit peu quand même, moi surtout c'est sur le côté offensif, hein. Je m'attendais à voir une équipe bien en place défensivement, mais je m'attendais pas à voir autant de qualité dans certaines phases de jeu au cours de cette phase de poule. Donc moi au contraire je trouve qu'ils ont vraiment frappé fort les esprits et ils ont montré qu'ils peuvent être dangereux contre n'importe quelle équipe dans cette CAN.
Je rappelle quand même que alors pourquoi je vous oriente là-dessus, parce que le Nigeria C'est peut-être pas le Nigeria de, qu'on a connu de Kocha, de Fidi, de Sunday Oliseh, mais le Nigeria, Kamel a l'habitude de participer aux Coupes du Monde, est quand même régulièrement présent aussi en Coupe d'Afrique, c'est souvent minimum quart de demi-finale. C'est un pays qui a l'habitude des grands rendez-vous.
Ouais, mais là, ils ont eu une période creuse, hein, parce que le Nigeria, on n'entend plus parler. Mais là, je veux dire, comme disait Vivien, en vérité, c'est une équipe qui n'a pas de star. La star, c'est l'équipe. Ils sont bons à tous les postes. Franchement, et voilà, et la star, c'est l'équipe. Parce que quand tu comptes sur une star, voilà, soit elle est dedans ou soit elle n'est pas dedans, hein, comme Mahrez. Et je veux dire, après là. Mais par contre, quand tu comptes sur une équipe, voilà, c'est, je veux dire, mais même si un, deux joueurs n'est pas bon, les neuf autres sont bons. Donc voilà, donc moi je pense que Nigeria, c'est une équipe, elle est solide. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est tactiquement.
Ouais.
Je veux dire, ils ont joué comme une équipe européenne. Je veux dire, tactiquement, ils se replacent bien. Ils sont, chacun sait ce qu'il a à faire. Hein, c'est pas comme avant, chacun faisait ce qu'il voulait, mais là, c'est chacun sait ce qu'il a à faire. Et franchement, et dans l'impact physique, dans les relations entre défendre et attaquer, ils sont très forts. Et non, franchement, moi, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné dans ce premier tour, hein, sincèrement.
Hein. Tu la vois gagner?
Je sais pas, parce qu'on sait pas, mais je veux dire que, elle peut aller loin. Elle peut aller très loin. En finale, elle peut aller en finale.
Je rappelle, le Nigeria a quand même ses 6 Coupes du Monde, 3 Coupes d'Afrique des Nations, 2 Coupes des Confédérations et une finale gagnée aux Jeux Olympiques quand même, hein. Donc c'est, voilà. Comme quoi, les grandes nations ne meurent jamais, Alison.
Et au-delà du Nigeria, on parle du niveau technique. On a souvent tendance à critiquer un peu la CAN en disant que techniquement c'est faible, qu'on s'amuse pas, qu'il y a des terrains dégueulasses et qu'on peut pas, aligner 3 passes de suite. Mais moi, cette CAN-là, techniquement, je la trouve bien. Je trouve que les équipes sont en place. Je trouve que les sélectionneurs ont fait un vrai travail de vidéo, parce que quand on voit, par exemple, contre la Côte d'Ivoire, qu'il y avait des prises systématiques à 2 contre Mahrez et que Mahrez ne pouvait pas repiquer pour enrouler, on voit que là le travail a été fait. Et je tiens à souligner vraiment cet aspect tactique pour l'instant là et l'aspect aussi technique, parce qu'on dit souvent que c'est moins fort que la Copa América. Ben moi, la Copa América, là, j'ai trouvé nul, et je trouve que la CAN est meilleure que la Copa América.
Avant la pause, honnêtement, c'est vrai que j'avais pas vu le match entier à Nigeria-Égypte, j'ai vu un grand format, et c'est vrai qu'en termes de jeu, le Nigeria m'avait quand même relativement impressionné. Je vous rejoins costaud, complète, technique, physique, transition, Kamel.
Moi, je l'avais dit la semaine dernière, c'est
vrai que c'est fort. Allez, on se retrouve juste après.
Time Foot revient dans un instant. Revient dans un instant 20h, 21h. Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On salue, on embrasse Bilal Nenman, et on est avec Vivien, Alison, Kamel. On a parlé des huitièmes de finale, donc de la CAN. Je rappelle rapidement: Burkina Faso, Gabon, Nigeria, Tunisie, Sénégal, Cap-Vert, Mali, Guinée équatoriale, Guinée, Gambie, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Égypte et enfin Maroc, Malawi. On passe au second sujet.
Time Sport. Le duel.
Si on a un très beau tableau des huitièmes de finale, on a hâte d'en découdre avec tous ces matchs. Que dire de l'Algérie éliminée de cette Coupe d'Afrique des Nations? Pas une victoire, si je me trompe pas. Hein, je crois 2 défaites, 1 match nul, dont la dernière contre la Côte d'Ivoire. Kamel.
Bah déjà, c'est.
Que dire?
C'est une très grosse surprise. Déjà qu'ils soient pas qualifiés. Moi, je vais dire, c'est même une honte, parce qu'arriver à ce niveau-là. Les 2 premiers sont qualifiés, plus les 4 meilleurs troisièmes. Donc je veux dire,
vu la poule, il y avait que la Côte d'Ivoire.
Mais ouais, je veux dire. Mais moi, je pense que c'est un problème d'attaquant. Je pense que leur attaque n'a pas fait les bons choix. Parce qu'on dit, oui, c'est les gardiens, etc. Mais bon, Brahimi face aux gardiens, il lui tire dessus, etc. Donc je veux dire, c'est assez compliqué, mais. Mais après, je sais pas. Après, c'est peut-être qu'ils sont vus trop beaux. Moi, je pense qu'ils sont vus trop beaux avec le gain avec l'équipe à prime au Qatar, etc. Donc, ils se sont dit, on est sur la lancée. Même bon, même si c'était pas assez l'équipe à prime, mais il y avait quand même des joueurs qu'on jouait. Donc, ils sont sentis trop beaux. Et voilà. Et après, voilà. Ils ont. Mais c'est vraiment incroyable, hein, parce que. Ne pas se qualifier.
C'est une France 2002 là.
Ouais, c'est vrai, une France 2002. Voilà, ils ont perdu. Ouais. Et je pense que après, on nous dit oui. on efface ça et on attaque la Coupe du Monde, mais s'ils jouent comme ça les qualifications de la Coupe du Monde, ils vont pas aller en Coupe du Monde. C'est ça qui est incroyable. Ça veut dire qu'il faut que Djamel Belmadi refasse toute son équipe, etc. Parce que faut qu'il révisionne tous les matchs, parce que c'est incroyable. Je veux dire, moi j'ai vu des joueurs,
ils étaient. Tu les as tous vus, toi,
ouais, j'ai vu les trois matchs. Mais les joueurs, c'était l'ombre d'eux-mêmes.
Ouais, Belaïdi.
Moi, je comprends pas pourquoi il a sorti Belkebla. Je comprends pas, parce que le premier match, il était bon et il l'a pas sorti. Mais je veux dire, Mahrez, Brahimi, tout, Slimani, toute l'attaque offensive était zéro. Et c'est ça. Ça veut dire que si tu subis et tu vois pas et ton équipe ne marque pas, ça te met en position de faiblesse.
Bien sûr.
Et c'est vrai que s'ils avaient marqué un but, etc., ça aurait mis un peu un sparadrap sur un truc. Mais là, franchement, ils ont rien fait. Mahrez, je sais pas ce qu'il avait. Mais bon, après, moi, ce qu'il faut pas tirer, c'est sur le bilan de Belmadi. Le bilan de Belmadi, il est top. Je veux dire, il a créé une équipe, il a créé un groupe, il a créé un style de jeu, il a créé, voilà, il a tout créé. Mais je pense qu'il faut que, Moi, sur certains joueurs, ça y est, ils ont fini leur carrière. Je veux dire, ils ont fini leur carrière à cette Coupe d'Afrique. Parce que franchement, il faut donner la chance à des jeunes, etc. Mais je veux dire, Brahimi, Feghouli, je veux dire, voilà, ils sont pas bons. Ils ont pas été bons. Même pendant les qualifications de la Coupe du Monde, moi, j'ai vu des matchs, ils ont pas été bons. Ils ont été que l'ombre d'eux-mêmes. Non, je pense qu'il faut que Belmadi, pas en face son équipe, mais je veux dire et même derrière
amène du 109 peut-être
même derrière il a changé je crois que c'est sur les trois matchs c'est pas trois fois la même équipe derrière il a changé au milieu de terrain il a changé je sais pas il y avait pas une équipe type. C'est ça qui est incroyable.
Après, il a justifié par le fait qu'il y avait des cas Covid, qu'ils ont pas forcément, qui étaient su en interne, mais qu'il n'a pas forcément diffusé en externe. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui s'est passé pendant ce temps-là.
Mais toutes les équipes africaines ont des cas Covid. Toutes les équipes du monde ont des cas Covid. Mais je pense que Djamel Belmadi va falloir qu'il s'assoie, qu'il visionne tous les matchs. Il faut qu'il
remette surtout l'état d'esprit. Voilà, je pense que psychologiquement, ce qui les a tués, les Fennecs, c'est qu'ils voyaient trop beau et le timing surtout. Ils viennent de gagner la Coupe arabe. C'est les ultra favoris de la Coupe. Et dans quelques mois, on a les barrages pour la Coupe du Monde. Donc je pense qu'en termes de timing, ils se sont vus déjà trop beaux. C'est-à-dire qu'on vient de gagner la Coupe arabe, on est ultra favoris. Donc dans leur tête, ils se voyaient déjà en finale en train de soulever la Coupe d'Afrique des Nations. Puis ils se sont déjà projetés pour les barrages de la Coupe du Monde. Donc je pense que ce qui les a tués vraiment psychologiquement, leur adversaire vraiment, je pense que ça a été vraiment eux. Ils se sont vus déjà gagner trop beau. Et ça s'est vu des fois sur le terrain. Il n'y avait pas les efforts de Fournier. On voyait que techniquement Mahrez des fois il était trop facile et trop facile, ce qui a conduit à énormément de pertes de ballons. Contre la Côte d'Ivoire, Mahrez il était pris en étau. Il a pas fait grand chose. Et au-delà de ça, là où je m'interroge, mais peut-être que Belmadi dans les semaines à venir va y répondre plus précisément, c'est que physiquement, j'ai trouvé l'équipe d'Algérie un tout en dessous.
C'est ce qui ressort souvent, que les Algériens avaient l'air fatigués.
C'est-à-dire que l'agressivité positive, le pressing qu'avait instauré jusque-là Djamel Belmadi, là, on l'a pas vu. On a vu les joueurs les mains sur les genoux. On a vu les joueurs limite cracher leurs poumons sur le terrain. On a vu que les efforts étaient très très difficiles. Alors, et l'excuse que je peux pas entendre, c'est oui, on a joué à 14h. Oui, il fait chaud.
À part quelques nations, on est d'accord.
Non, mais parce qu'on prend l'exemple du Sénégal, les trois matchs qu'ils ont fait, c'était trois matchs à 14h. Donc, pour le coup, je vois pas d'excuses valables, entre guillemets, même si je sais que c'est difficile de jouer sous une chaleur étouffante, je vois pas comment se fait-il que les joueurs algériens aient été autant en dessous physiquement, parce que c'était criant contre la Côte d'Ivoire. À la 60e, on avait un Mahrez, on avait un Belali qui étaient cramés. On avait les défenseurs centraux qui était cramé aussi. Donc voilà, ça c'est une raison sur laquelle je m'interroge, mais il n'y a pas tout à jeter. C'est-à-dire la série d'invincibilité, fallait qu'elle se termine. Elle s'est pas terminée de la meilleure des manières, parce que ça s'est terminé sur une déculottée et sur en plus une élimination directe. Mais je trouve que c'est bien, parce que les Fennecs vont faire preuve d'humilité. Là, on leur a montré que voilà, en Afrique, il y a des rivaux, il y a des rivaux certains aussi. Donc les gars, faut encore travailler. Tout ce que Belmadi a mis en place jusqu'à présent et surtout l'état d'esprit, il faut le retrouver pour la Coupe du Monde. Peut-être que d'ici là, il y aura d'autres talents qui vont émerger. Donc il y a pas tout à jeter. C'est une défaite qui fait mal, certes, mais c'est une défaite qui fait apprendre.
Vivien, on a envie de t'écouter. Merci Alison et Kamel.
Bah, je partage un peu ce qui a été dit sur peut-être un petit peu d'arrogance. Enfin, il y a pas eu les éléments devant. J'ai été déçu par certains comme Slimani par exemple. Je pensais que les quelques moments où il est sorti du banc, je pensais qu'il allait apporter un des joueurs dont on a souvent parlé ici à Lyon. Donc moi, ce que je vois comme difficulté, c'est que j'ai l'impression qu'en Algérie, il y a quoi, facilement 30 très bons joueurs et que peut-être ce qui va être dur, ça va être maintenant de trier pour Djamel Belmadi par exemple. Au milieu, il y avait Zerouki qu'il a essayé de mettre, le milieu de Twente. Et, par exemple, est-ce qu'il faut continuer à installer des jeunes? Est-ce qu'il faut mettre certains de côté? Et moi, je pense qu'en vue des barrages, c'est ça qui va être le plus dur pour moi, pour le sélectionneur.
Est-ce qu'il faut continuer à installer des jeunes? Mais comme l'a dit Kamel, lorsqu'il a énoncé les joueurs qui occupent le secteur offensif, ce sont que des joueurs d'expérience qui n'ont la plupart.
Ils ont
des
défaillants, justement. Oui,
c'est ça. Non, oui. C'est des vieux
loups. Mmh. Justement, peut-être qu'en sortie du banc, il faut essayer d'aller chercher une ou deux pièces.
D'accord.
C'est ce qui fonctionnait jusqu'à présent. C'est en Slimani qui est rentré et qui faisait des super matchs. Donc voilà, il faut retrouver cette recette qui, jusqu'à présent, a fait des bons plats. Il faut essayer de remélanger tout ça. Il faut refaire preuve d'humilité. Il faut montrer. Voilà, ils se sont tués, l'Algérie. Franchement, le premier match contre les Sierra Leone, on peut dire voilà, c'est difficile, il n'y a pas eu de préparation, il y a eu le match amical qui a été enlevé au dernier moment. Bon allez, passe droit, mais le match contre la Guinée équatoriale, la défaite, c'est ce qui les tue. En vrai, c'est ce match-là, c'est ce match couperet-là qui les tue. Voilà, donc il faut refaire un bilan à froid, faut laisser passer l'orage et ensuite faut retravailler pour les barrages.
Sincèrement, quand on voit le groupe au départ, avec la Côte d'Ivoire, avec la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Honnêtement, on se...
Ouais, mais il est là le problème.
Ils auraient pu même passer meilleur troisième. C'est incroyable. À la limite, tu loupes tes premiers matchs, mais au moins tu termines meilleur troisième, tu vois. Et après, je veux dire que... Mais là, non. Là, ils ont été derniers de leur...
Dernier,
ils ont marqué un but. C'est un milieu de terrain qui a marqué, c'est même pas un attaquant. Je veux dire, en plus, ils ont eu des occasions.
Un but de pénalty raté.
Ouais, ils ont eu des occasions, c'est incroyable. Je veux dire, je sais pas, moi, sincèrement, je veux pas.
Mahrez qui loupe un pénalty, c'est un manque de sérénité. Enfin, ça reflète peut-être le manque de sérénité algérien. Enfin, la manière dont il le loupe, hein, pas le fait qu'il loupe, quand tu vas tirer très fort comme ça sur le poteau.
Ouais, mais tu tires très fort au milieu, la certitude, très fort au milieu, merci, au revoir, on n'en parle plus.
Oui, c'est la manière dont il loupe, c'est pas le fait qu'il loupe un pénalty, c'est la manière, je trouve, ça reflète un petit peu le manque de sérénité qu'on a vu. Un petit peu le deuxième et le troisième match.
Je pense vraiment que Mahrez, il était vraiment pas dedans et que voilà, j'avais dit sur ce plateau que déjà il était pas très favorable à cette CAN parce que on connaît la concurrence qu'il y a à Manchester City et que c'était une année de Coupe du Monde. Voilà, après quand t'es appelé par l'Algérie, tu peux pas dire non. Après, est-ce que psychologiquement il était vraiment dedans? C'est facile de taper sur lui maintenant que l'Algérie est éliminée, mais l'attitude fait que je suis pas certaine que psychologiquement il était à fond et même physiquement, hein, il a pas eu énormément de préparation. On voyait beaucoup tirer la langue, donc voilà. Je pense que c'est énormément de circonstances qui font que beaucoup de joueurs sont passés à côté.
Mais normalement, ces joueurs qui jouent en Europe, ils sont préparés physiquement puisqu'ils jouent dans des clubs européens
préparent. C'était même pas une semaine de pour rejoindre la sélection, c'est compliqué.
Ouais, non, mais je veux dire,
c'est pas le seul, attention. Hein.
Ouais, non, mais je veux dire, même quand tu rejoins la sélection, t'as quand même une préparation dans ton club, etc. Donc je veux dire que t'es prêt physiquement. Donc moi, je sais pas, peut-être qu'ils qu'ils pensaient qu'ils allaient la gagner, qu'ils allaient se qualifier en Coupe du Monde et peut-être gagner la Coupe du Monde aussi. Je pense. Non, mais c'est la vérité. Je veux dire, on était tellement partis dans une bonne ambiance avec Belmadi qu'on pensait qu'on allait gagner la Coupe du Monde.
Une euphorie, c'est ça.
Donc je veux dire, step by step. Voilà. Donc maintenant, il faut que Belmadi ressasse tout ça à froid avec son équipe, ses adjoints, et voilà. Et mais je veux dire, franchement, il faut qu'il redonne d'autres joueurs, il faut qu'il y ait d'autres joueurs qui jouent parce que c'est toujours les mêmes et je veux dire c'est comme avec les frères Ayou, ils sont toujours là mais ils font rien et c'est la vérité. Brahimi et Feghouli, c'est toujours la même chose. Je veux dire ils apportent rien de concret. Donc je veux dire c'est pareil, voilà. Donc je veux dire à un moment donné, faut que Belmadi
Mais c'était du monde derrière. Parce que c'est vrai qu'on a le sentiment de les voir depuis 10 ans ces mecs là.
20 ans ils sont là, c'est comme les frères Ayou. Ils sont nés en 1878, je sais pas. C'est incroyable. Non, mais je veux dire, à un moment donné,
Vivien, la série algérienne, on a longtemps parlé de cette série de matchs sans défaite. Même Jamel Belmadi en parlait. Est-ce qu'on s'est pas trompé d'objectif?
Après, bon, ce sont peut-être plus les médias. Je pense quand même que Jamel Belmadi et les joueurs avaient quand même cette canne et puis la qualification en vue. Donc, la série, ils l'ont prise, elle était belle en termes de résultats. Mais après, peut-être que le contenu des derniers matchs, je trouvais que c'était un peu plus poussif qu'au début de la série où ils avaient vraiment la main mise sur le ballon. C'était beaucoup plus beau en termes de jeu proposé. Donc, maintenant, je pense qu'il faut juste se remettre en question. Je pense peut-être injecter un ou deux joueurs devant. Moi, je dirais qu'il faudrait peut-être un ou deux matchs amicaux pour
solidifier la charnière aussi centrale. Moi, je l'ai trouvé en souffrance.
Atal aussi était très fragile.
Moi, particulièrement, j'ai trouvé la charnière défensive très 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 en souffrance et très très en dessous. Sur les côtés, je trouve que ça allait. Il y a personne qui a bu la tasse du côté de Serge Aurier, donc ça va. Physiquement, on sait que Serge Aurier, voilà. Mais je veux dire que pourquoi je parle de la charnière, parce que justement quand sur le côté ça y allait, il y avait du mal, tu sais, la couverture, la compensation. Donc vraiment au niveau de la charnière centrale, faut un peu corser le tout.
Ouais, et pourtant l'Algérie éliminée, Kamel Allison vient, tirage au sort demain à 16h. Des barrages de la Coupe du Monde, ça arrive vite, très vite. Il va falloir se remettre dans le bain pour les Algériens.
Ah oui, ça, de toute façon, ça va être le très gros boulot de Belmadi, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde. Je veux dire, comme on dit en algérien, qui est fatmat, c'est ce qui est passé est mort. Donc voilà, donc ça y est, c'est fini. Maintenant, la Coupe d'Afrique, c'est terminé, on n'y est plus. Maintenant, faut se pencher sur les qualifications à la Coupe du Monde. Et là, si on se qualifie pas à la Coupe du Monde, ça serait la pire de catastrophe, quoi. Je veux dire, c'est incroyable. Donc, je pense que Belmadi va tout remettre en place et puis on verra. Mais c'est vrai que ça arrive vite en plus, hein. C'est ça le problème.
Mais est-ce que c'est pas une bonne chose, justement? Après une déroute, justement, de vite enchaîner.
S'il faut que tu changes des joueurs, etc., il te faut des matchs amicaux, tu vois, il faut préparer. Parce que là, soit il repart avec les mêmes et il risque d'aller dans le mur. Je pense qu'avec les mêmes, tous les joueurs, il va aller dans le mur. Ou soit il faut qu'il ajoute quelques joueurs, etc. Et après, c'est vrai, on dit des attaquants, mais les attaquants, il faut qu'ils aient de la bouteille. Donc je veux dire, tu vois, tu peux pas mettre un attaquant de 18-19 ans, tu vois. Donc je veux dire, c'est compliqué pour Belmadi. Mais je pense que c'est un garçon très intelligent. Il sait ce qu'il a vu et puis voilà, il va mettre.
J'ai hâte en tout cas des tirages de demain. Mais s'il y a en tout cas l'Algérie qui prend la RDC et l'Algérie joue comme ça, moi je prends. Hein. Je prends avec plaisir. Hein. Donc,
voilà. Je rappelle les 10 nations qui vont disputer donc les barrages pour la Coupe du Monde de football qui se déroulera du 18 décembre. Je me trompe, j'ai pas les dates. Bref, en tout cas, les 10 nations, l'Algérie, bien sûr, le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et le Mali. Autant dire qu'on a un sacré tableau.
On met la Côte d'Ivoire et on a le top 11.
Ouais.
Ouais, en Afrique.
Ouais, est-ce qu'il y avait donc le match entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui se trouvait dans le même groupe? Mais sinon, on a même historiquement les meilleures nations du continent.
Totalement. C'est pour ça qu'il va falloir être prêt. Parce que si l'Algérie joue comme ils ont joué la Coupe d'Afrique, ils vont vite passer à la trappe.
Hein. Alors qu'il y a quelques semaines, on parlait de la Coupe du Monde comme acquis, même pour les Algériens. Il va falloir batailler.
Oui, même qui passait le second tour, qui allait en huitième. Mais non, je veux dire, mais c'est la vérité. C'est ce qu'on disait. Mais je veux dire que c'est là, il va falloir y aller step by step et voilà et remettre les idées en place. Et comme disait Allison, remettre de la détermination. Je veux dire vraiment. Ce qu'il a mis en place, Belmadi, c'était la détermination. C'est vraiment. Et puis surtout, voilà. aussi de l'impact physique, etc. Donc je veux dire, voilà, mais bon, après, c'est, ça va être, moi je pense que ça va être compliqué pour l'Algérie.
Non, je pense qu'il suffit. Au contraire, c'est ce que je disais en préambule. Je trouve que cette défaite, aussi malheureuse soit-elle, je trouve qu'elle arrive à point nommé. Parce que la déroute aurait pu être celle de la Coupe du Monde, justement. Donc voilà, je pense que voilà, ça remet de l'humilité dans ce groupe et ça montre qu'il faut encore travailler parce que les Fennecs ne sont pas arrivés.
Ah oui, rien n'est acquis, hein, mais
bien sûr.
Oui, il vaut mieux que ça arrive maintenant qu'au barrage déjà.
Ouais, ça serait...
ils ont même parlé de la Coupe du Monde.
Même si effectivement c'est catastrophique, hein, la
Fennec
qui
sort en face de poule,
c'est incroyable.
Ouais. Du 21 novembre, voilà, je me suis emmêlé les pinceaux, du 21 novembre au 18 décembre 2022, la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar. Et puis il faut quand même savoir que lors du tirage au sort qui va se dérouler demain, il y a des têtes de série, c'est-à-dire oui. L'Algérie.
Deux chapeaux.
Et voilà, donc deux chapeaux avec donc, l'Algérie, on les a pas en tête là comme ça, mais
Algérie,
le Sénégal.
Maroc, Tunisie, Sénégal, Mali, premier chapeau. Et le reste, RDC, ce que t'as souhaité.
Égypte,
premier chapeau.
D'accord, donc c'est le Mali qui est dans le deuxième chapeau.
Le Mali, deuxième chapeau, pardon.
Donc,
c'est pas bon à prendre, hein, le Mali, hein, je trouve, hein, sur un aller-retour, par exemple pour l'Algérie.
Alors, j'ai pas le calendrier, mais à mon avis, je pense que les équipes qui sont dans le premier chapeau recevront au match retour.
Normalement.
Match retour à Alger. Bon, voilà, normalement, on doit aller la chercher la qualification. En tout cas, tirage au sort. Demain à 16h, une pause et on se retrouve juste après.
Time Foot revient dans un instant. 20h, 21h. Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On se retrouve pour la dernière partie de Time Foot sur Beurre FM, votre émission foot, voilà, durant la Coupe d'Afrique des Nations avec Alison, avec Kamel, avec Vivien. On a parlé notamment du tableau des huitièmes de finale, de la désillusion de l'Algérie. Maintenant, on passe au troisième et dernier sujet.
Time Sport. La troisième mi-temps
avec Yanis. Eh oui, toujours là avec sa coupe assez exceptionnelle. On quitte le continent africain et on retrouve le continent européen avec le Barça éliminé de la Coupe d'Espagne. Logique. Il y a du travail encore pour les hommes de Xavi, Alisson.
Il y a énormément de travail et il y a énormément aussi de cas à régler, notamment le cas Ousmane Dembélé. Là, on a Xavi qui ne veut pas se séparer de Ousmane Dembélé, mais plus haut, les dirigeants veulent que Monsieur Dembélé s'en aille pour un peu dégraisser la masse salariale. Hein. On sait qu'ils doivent dégraisser 3 gros salaires en vue éventuellement dans un rêve un peu lointain d'avoir Erling Haaland. Donc voilà, mais en tout cas sur le terrain, on voit encore que c'est poussif. Hein. Ils égalisent, enfin ils reviennent à 2-2, ils se font battre dans le temps en prolongation par but d'Iker Mounian. On voit que ça progresse un peu quand même. Je vais pas être trop négative.
Offensivement,
ça progresse un peu. On voit des choses qu'on ne voyait pas, par exemple en début de saison. Voilà, c'est un Barça qui se reconstruit, c'est un Barça qui revient petit à petit, mais ça reste très difficile encore pour Xavi.
Ouais, cette défaite face à l'Athletic Bilbao, Mounian avait ouvert le score, Ferran Torres avait égalisé, puis Inigo Martinez 2-1, Pedri 2-2, et puis Mounian sur penalty. Donc le Barça éliminé. Kamel.
Oui, mais Barça, bon après, Barça cette saison elle est terminée, quoi. Je veux dire, Xavi il est venu, bon il essaye de mettre en place son jeu, mais c'est pas avec des joueurs qu'il a choisi, donc je veux dire c'est assez compliqué. Il a pris pas mal de joueurs de la Masia, donc des jeunes, etc. Non, je pense que là ça, ils vont aller jusqu'au bout et ça va, mais je pense que le plus important c'est la saison prochaine, et là on verra le vrai jeu de Xavi, etc., avec les joueurs que lui il a voulu. Bon après ils ne pourront pas avoir tous les joueurs parce qu'ils ont des gros, 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 gros problèmes financiers. Mais je veux dire que Dembélé, c'est pas parce qu'il est en fin de contrat en 2023 et qu'il ne veut pas reprendre.
Pour l'instant, il ne souhaite pas prolonger. Voilà, Xavi, il veut le garder, il veut qu'il prolonge.
Oui,
mais les dirigeants, c'est un gros salaire, il est tout le temps blessé.
Non, mais ils veulent le prolonger aussi.
Mais lui, il ne veut pas.
Non, il veut partir.
Ils veulent le faire partir parce que justement les négociations ont été
interrompues. Non, mais je veux dire après.
Parce que Dembélé veut un très gros salaire.
Ouais, ouais, ouais.
Il n'a pas demandé 40 millions par an.
Non, mais il est totalement débile. Il est dans un club qui est en faillite. Le mec, il veut le salaire de Mbappé.
Non, mais je veux dire qu'il est dans un club qui est en faillite. Même Messi, il a pas eu ce qu'il voulait. Et en plus, le type, il a joué une fois tous les six du mois. Donc, je veux dire.
Il s'est marié en secret, en plus.
Voilà, donc, je veux dire.
Félicitations.
Félicitations. Non, mais je veux dire, voilà, maintenant, Barcelone, voilà, Xavi est venu pour réparer ce qu'il y a de réparable. Mais bon, après, je pense que la vraie saison de Barcelone commencera la saison prochaine avec leur recrutement. Donc, je pense que là, ils vont faire un recrutement maintenant, même s'ils veulent. Ils veulent acheter des grands joueurs, mais bon, je pense qu'il va falloir qu'ils prennent des crédits de 300 ans, parce que là, je veux dire, ils sont tellement, tellement endettés, il va falloir qu'ils prennent des crédits jusqu'à... Waouh, ça va.
Après, cette saison, il n'y a pas tout perdu. Il y a quand même la Ligue Europa, une éventuelle aussi, s'ils échouent en Ligue Europa, une éventuelle qualification européenne, ils peuvent grappiller des places. Ouais. Mais la vraie mauvaise nouvelle, en tout cas, de la soirée contre Bilbao, c'est de nouveau la blessure d'Ansu Fati. C'est que le petit, il était revenu, il était bien revenu, et là, il est reparti pour quelques semaines, si je ne m'abuse. Il est reblessé. Donc ça, je pense que c'est vraiment une très très mauvaise nouvelle pour le Barça et surtout pour Ansu Fati.
Fillon,
ils ont quand même laissé passer la seule occasion de sauver un petit peu la saison, parce qu'on sait que la coupe, quand la saison est mauvaise en termes d'image, si une coupe ça fait toujours bien, ça donne du beau au cœur.
C'est des revenus aussi. C'est
voilà, en termes d'image. Donc non, mais comme a dit Kamel, Xavi, il arrive comme ça dans un rôle de cleaners pour nettoyer une maison qui est sale de tous les côtés. Ouais. Donc, pour l'instant, il essaye un peu de se débrouiller. Mais puis, on voit que de toute façon, défensivement, le Barça, il encaisse tout le temps autant de buts. Donc, comme tu as dit, offensivement, je trouve que c'est un petit peu mieux. Mais défensivement, la dernière fois que Piqué avait fait un bon match, il avait encore des cheveux. Donc,
il est dur.
Donc, non, mais si.
Mais c'est vrai, dans n'importe quel autre effectif, Piqué ne joue pas.
Oui, donc finalement, Xavi, il essaye de pédaler. Mais là, faut attendre l'an prochain. Et si le Barça arrive à finir, je dirais même cinquième de Liga, pour moi, ce serait un miracle.
Le Barça donc éliminé en huitième de finale par Bilbao de la Coupe du Roi. Et dans le même temps, ça a été difficile, mais le Real Madrid est venu à bout de Elche sur le score de 2-1, malgré l'expulsion de Marcelo à la 102e minute. C'est Gonzalo Verdú qui avait ouvert le score pour Elche. Égalisation en disco et un certain
Eden Hazard
qui donne la victoire au madrilène. Parce que c'était la résurrection de...
Ouais, mais lui, c'est sa résurrection tous les trois mois, lui. Et après, il replonge, il retourne au McDo, et il mange un peu trop, et il n'arrive plus à aligner trois passes. Donc, voilà, on attend, c'est pas du tout sa résurrection. Moi, je suis pas du tout, je vais pas encenser Eden Hazard, hein, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui déçoit énormément. Mais en tout cas, il a été le sauveur du Real hier, et c'est une bonne chose. Le Real qui bataille, mais le Real qui fait le dos rond, comme d'habitude, et qui s'en sort.
Après, malgré tout, là, on peut relativiser, c'est que même en coupe, Ancelotti ne met pas titulaire. Faut pas oublier qu'il le fait entrer en fin.
Parce qu'il est nul, le mec.
Enfin, qui tient pas. Moi, j'aurais plutôt dit qu'il est incapable de tenir 90 minutes.
Physiquement, il est pas bon.
C'est pour dire que voilà, c'est
pas un joueur digne du Real Madrid.
Oui, voilà. Si on voit que le résumé, comme on dit, le résumé YouTube, on peut se dire qu'Hazard, il a fait un super match puis qu'il met le but de la victoire, mais non. Voilà, il fait un match quelconque, mais effectivement, sur l'action, par contre, il finit bien. On peut lui donner tout le crédit malgré tout, mais bon, c'est.
Non, mais. Kamel. Mais le hasard, c'est pas le hasard de Chelsea. Il est aux antipodes d'être le hasard de Chelsea. Donc lui, il a voulu signer dans le club de ses rêves. Je veux dire, ils ont tous leur club de leur rêve, c'est Real de Madrid. C'est incroyable. Peu, ils veulent tous signer dans le club de leur rêve des Real Madrid, mais arriver quand ils arrivent au Real Madrid, ils perdent totalement leur football. Non, moi, je pense que moi, je l'ai vu à Chelsea et je suis allé voir les matchs de Chelsea à Londres, etc. C'est un phénomène, je veux dire, en plus les terrains ils sont près les tribunes sont près du truc. Ouais. Je dis franchement, quand il avait le ballon, c'était un dragster, le type. Sur 3 mètres, il fumait tout le monde. Quand il était à Chelsea, maintenant il arrive au Real, il a cru qu'il a fait ce qu'il voulait, et puis voilà, et bon, il a été en surpoids, etc. Mais bon, les surpoids, c'est pas grave. Si t'arrives en surpoids, il y a tout ce qu'il faut dans un grand club. Ils peuvent te faire perdre 10 kilos en dormant, tu peux perdre 10 kilos avec eux, tellement ils ont tout ce qu'il faut. Mais je pense que voilà, il est pas sérieux, etc. Donc je pense que maintenant le Real de Madrid va essayer de le vendre, et voilà. Mais bon,
vendre à qui?
Je sais pas. Non, mais ils vont le vendre, mais à très bas prix. Tu vois, ils vont le vendre modèle action, tu vois.
Est-ce qu'il pourrait retourner à Chelsea? C'est la question que je me pose.
Non, avec Tuchel, non, il peut pas. Non, non. Il a pas, ah. Il a
plus. Mais est-ce que c'est pas l'entraîneur qu'il lui faudrait?
Non, parce que non, faut pas revenir, voilà, faut pas revenir.
Faut jamais retourner avec une ex.
Voilà,
c'est ça,
voilà, non, voilà, c'est ça. Mais je veux dire, non, là, il peut aller, je sais pas aussi qu'il peut aller, il peut aller en Belgique ou je sais pas quoi.
Non,
là,
il est dur, Kamel, il est dur.
Bah oui.
Dans la même phrase, il dit que Eden Hazard est talentueux et que c'est un joueur incroyable à l'opier. Non, 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 il dit faut qu'il retourne en Belgique.
Pourquoi pas retourner en Ligue 1?
Quand, mais oui, à Lille, pourquoi? À Lille, pourquoi pas?
Au PSG, non?
Non, PSG, il a pas le niveau, abuse pas.
Allez, c'est bien, non.
Pas, PSG va pas, c'est pas la retraite dorée des tocards.
Ah, c'est pas les tocards, mais ça y ressemble un petit peu quand il y a une retraite dorée, là.
Non, mais là, actuellement, excuse-moi l'expression, je vais te dire, c'est un tocard. Donc, je veux dire, tu vas pas ramener un autre tocard au PSG quand même, ils ont pas eu vous. C'est pas.
Un autre.
Parti le premier.
Non, je sais pas.
C'est pas en train de s'attaquer Messi quand même.
Non, jamais de la vie.
Un autre tocard.
Non, je veux dire, tu vois, donc, non, je veux dire, voilà. Mais c'est vrai. Il peut revenir en Ligue 1, à Lille, etc. Pourquoi pas?
À Marseille?
Non, pas Marseille, non. Mais en Ligue 1 à Lille, pourquoi pas? Mais je veux dire, non, mais là, au Real Madrid, Ancelotti, il ne veut pas. Et comme a dit Vivien, même en coupe, il le met remplaçant. Donc, je veux dire, il n'a pas, pas. Et puis après nous, on voit pas ce que voit l'entraîneur. Il le voit deux fois par jour à l'entraînement. Il voit ce qu'il a, tu vois. Il voit. Donc, je veux dire que. Non, il n'est pas. Moi, franchement, j'ai pas compris parce que quand il est parti chez Chelsea, c'était un top joueur. C'était l'un des meilleurs joueurs du monde. Il arrive au Real de Madrid, il s'est totalement éteint. C'est incroyable.
Ouais, c'était un engrenage. C'était blessure, perte de confiance, re-blessure, repère de confiance. Mmh. Un bon match, donc on l'encense. Et ensuite, re-blessure, repère de confiance.
Mais c'est vrai que le football, c'est comme je disais à mes joueurs, c'est 70% dans la tête et 30% dans les jambes.
Vous avez fait la transition de la Ligue 1 ce soir. L'un des gros derbys de notre championnat. Derby de malade entre Lyon et Saint-Etienne. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce soir, c'est à 21h.
Ben moi, je me dis que c'est un bon derby dans le sens où les équipes sont équilibrées. Je veux dire, Saint-Etienne, ils peuvent battre Lyon. Bah oui, parce qu'avant Lyon dominait le championnat et dominait Saint-Etienne. Mais là, même Saint-Etienne, même qui sont 20e, ils peuvent battre Lyon. Parce que Lyon, ils sont...
Lyon 11e du championnat. Non,
dire, Lyon est hyper fébrile en Ligue 1.
Hyper fébrile, ouais. Donc,
Lyon n'a pas de marche,
ils peuvent, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un bon match parce que c'est un match hyper équilibré.
Ben c'est victoire obligatoire pour les deux. Ouais. Parce que Saint-Etienne veut bien sûr se rapprocher du maintien et Lyon, on les voit très fébriles, même au Parc OL. Donc, ça va être. Il va avoir du spectacle.
Si, ça va être un bon match parce que, comme je l'ai dit, c'est un match hyper équilibré. Donc, voilà.
Ouais, Saint-Etienne, lanterne rouge de cette Ligue 1 avec simplement 12 points, soit 5 points quand même de retard déjà sur. Lorient et Bordeaux. Bordeaux, un autre malade de notre championnat.
Là, on va voir deux monuments du football qui vont descendre en Ligue 2. Ouais, Bordeaux et Saint-Etienne. Mais ça, je vais dire, c'est même pas la faute des joueurs. C'est la faute des dirigeants. Parce que Bordeaux, ça a été avec les ils ont été rachetés 4 fois par des fonds de pension, etc. Ça a été la catastrophe. Saint-Etienne, les deux présidents là. Ils veulent pas lâcher l'affaire, etc. Ouais, ils veulent pas lâcher l'affaire, etc. Donc ils gèrent le calme. Mais c'est vrai, si ces deux clubs vont en Ligue 2, ça sera de la faute totale des dirigeants. C'est incroyable.
Et la Ligue 2, c'est pas dit de remonter la saison d'après. Faut pas l'oublier que la Ligue 2, sa bataille, que c'est difficile pour des clubs. On l'a vu. On l'a vu pour des clubs comme Lens. On l'a vu que Auxerre aussi a bataillé pour remonter. Donc c'est pas dit que parce que tu t'appelles Saint-Etienne ou Bordeaux que tu vas remonter immédiatement. Surtout que Bordeaux, c'est un club qui a été très mal géré. Ces dernières années, les fonds de pension justement américains, donc qui dit aller en Ligue 2 dit forcément baisse de revenus. Donc voilà, c'est pas dit que la remontée est acquise. Mais en tout cas pour le match Lyon Saint-Etienne, je trouve que c'est pas un match coup près, mais limite hein. Lanterne rouge et un match et Lyon qui est mal positionné dans le au classement. Voilà, c'est un match qui, je dirais pas équilibré, je donnerais quand même l'avantage à Lyon, mais c'est deux équipes un peu malades, c'est deux équipes qui ont besoin de gagner. Historiquement, on sait que c'est un derby qui prend de la place. Donc c'est victoire obligatoire pour l'un des deux. Mais c'est paradoxal hein, quand on parle de Lyon à ce stade-là, parce qu'on n'avait pas le même discours en début de saison. Lyon faisait des beaux matchs, on n'en sentait pas qu'état.
Mais n'a jamais vraiment décollé finalement.
Jamais décollé, mais il y avait un semblant de quelque chose quand même.
Mais en France, un joueur fait un bon match, c'est le meilleur joueur du monde. Il lui faut le ballon d'or tout de suite. C'est ça le problème en France. Je veux dire, non, une carrière, ça se construit. Ça se construit sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Faut être truc. Là, en France, tu fais un joueur brésilien, il arrive, ou argentin, il fait 2-3 matchs, c'est le meilleur joueur du monde. Mais c'est du n'importe quoi.
Ça s'appelle la Ligue des Talents.
Tu parles de Paquita,
ouais,
qui a disparu progressivement
des
radars.
En début de saison, c'était le meilleur joueur de Ligue 1. Quoi. Kylian Mbappé, bien sûr, on le compare.
Il n'arrive même pas au doigt de pied de Kylian Mbappé. Mais je veux dire, c'est ça le problème ici. Ça veut dire qu'en vérité, ils achètent des joueurs et avec l'accord des médias, ben, ils les encensent pour les revendre plus cher. Paqueta, etc.
C'est pas mauvais, Paqueta, on en parle.
Je veux dire, on peut faire la liste de combien de joueurs de Ligue 1 ont fait 6 mois le top des tops et après ils sont retombés dans l'anonymat. On peut faire la liste. Elle est hyper longue. Je veux dire, non.
Mais il avait des références à l'étranger quand même, Paqueta.
Italie, Milancé.
Oui, c'est pourquoi je dis il sortait pas de nulle part non plus. C'est pas un mec qu'on a juste vu au Brésil.
Tu trouves sévère la Kemel sur Paqueta.
C'est pas comme Souza Everton qu'on avait vu juste au Brésil.
C'est pas un Luis Enrique par exemple.
S'il était tellement fort, pourquoi il explose pas à Lyon, il remonte pas à Lyon.
Lyon
est dans la. Ça veut dire, c'est un joueur.
Il portait Lyon juste tout le début de saison. Il a quand même porté Lyon.
Moi, j'aurais dit que ça commence ce soir. Lyon a 6 points de retard sur Rennes. Ça commence ce soir. Si Lyon gagne pas en 4-0, ça peut commencer dès ce soir.
4-0, tu penses? T'es optimiste, toi?
Paraît-il quelques soucis de comportement de Paqueta qui sont apparus début novembre.
Un Brésilien, c'est ça?
Ça, je sais pas.
Depuis que tout le monde l'a encensé, il s'est pris pour le Messi, c'est ça.
Mais c'est pour Ronaldinho.
Il s'est pris pour Ronaldinho, il s'est pris pour je sais pas quoi.
Allez, votre pronostic pour Lyon-Saint-Etienne ce soir?
Moi, je vais dire 2-1 pour Saint-Etienne.
2-1 Saint-Etienne.
Ouais.
La résurrection des Pascal Dubois. Et pourquoi pas?
Parce que tu verras 2-1 pour Saint-Etienne.
Alison.
2-1 Lyon.
2-1 Lyon. Ok, donc Lyon qui remonte au classement. Vivien.
3-0 pour Lyon.
3-0 pour Lyon, pour Vivien.
Il a dit 4-0, maintenant il dit 3-0 déjà. Ah, c'est... Ça va.
Non, mais à 3, je pense que les Lyonnais vont s'arrêter.
Merci Vivien, Alison, Kamel, merci de nous avoir écoutés dans ce nouveau numéro de Time Foot. Passez un bon week-end, on se retrouve nous lundi pour on aura déjà joué. Voilà, on sera en plein 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On remercie Yanis à la réalisation, tout sourire.
On pourra inviter le vainqueur du combat MMA entre Gana et Ngannou un jour ici.
Et tu enverras un message. Ouais. Pourquoi pas.
On avait déjà eu Fernand Lopez, donc il entraînait les deux.
Et pourquoi pas.
On aura le vainqueur.
On a l'habitude sur Beurre FM. Passez une bonne soirée, passez un bon week-end. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro.
Retrouvez Time Foot tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.